Mémoire de vie, mémoire de ville, un projet radiophonique imaginé par l'Association des petites cités de caractère de Bretagne, associé à la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Durant l'été 2023, des seniors ont été mobilisés dans 7 petites cités de caractère de Bretagne pour témoigner de leur vie passée, leur vie d'aujourd'hui et celle de demain. C'est ainsi que se sont posés les micros de Radio Active à Montcontour, de Radio Évasion au Fouet à Pont-Croix, de Fréquence 8 à Montfort-sur-Meu, de Paroles de Vie à Dol de Bretagne, de Radio Brodgenet à Gemley-sur-Scorff et de Plume FM à Rochefort-en-Terre. Cette action régionale s'inscrit dans le cadre de l'été culturel lancé par la DRAC de Bretagne. Bienvenue dans l'une des petites cités de caractère de Bretagne.
L'histoire des échanges et la distribution de produits entre des pays et d'autres régions avec la Bretagne est grande, car dès le Moyen-Âge, la Bretagne commercialisait déjà des céréales, du sel, du beurre et des vins qu'elle produit en excédent. Depuis le XVIIe siècle, elle reçoit de la morue de Terre-Neuve et les premières denrées coloniales. Au XVIIIe siècle, il existe deux sortes de commerce en Bretagne. Le commerce de marchandises, produit au pays, car la Bretagne élève des bestiaux qui animent les foires, les marchés, et la pêche est une activité dynamique. Et le commerce de marchandises, qui y sont apportées comme le vin et les épices. D'ailleurs, ces ports réceptionnent des vins du Bordelais qui feront une grande partie de la fortune de la région. Quant au café, au cacao et au sucre, ils représentent plus de 50% des marchandises débarquées en Bretagne, essentiellement à Nantes, entre 1749 et 1754. Les épiciers sont donc dépendants des grandes centrales portuaires car une partie des thés et des poivres vendus par la Compagnie des Indes prend la direction des principales villes de la province. Au début du XXe siècle, Marie Le Gall et Guillaume Savina ouvrent une alimentation en profitant du commerce maritime et achètent un grilloir à pain pour se démarquer. C'est après la Première Guerre mondiale que l'entreprise décide de franchir un cap en investissant dans un torréfacteur de 15 kg et continuera d'investir modestement. C'est le début des cafés Savina. En 2023, l'entreprise a 111 ans. Elle est tenue par Monsieur et Madame Griffon. Jean-Yves Griffon et Lomic Savina, le petit-fils de Guillaume Savina, nous racontent avec beaucoup de modestie leurs souvenirs et l'histoire du café de ce port de Fondriade.
C'est de l'histoire. Pont-Croix était un port. Et c'est le cabotage qui a amené toutes les épiceries à Pont-Croix, où il y avait plusieurs marchands de, en gros, les épiceries, les marchands de vin. Et donc Pont-Croix est devenu un centre commercial important à ce moment-là. On ne vend pas spécialement du café en 1902. On est un épicier en gros. Et le café faisait partie des produits qui étaient distribués. Et il devait en avoir, si mes souvenirs sont bien exacts, il devait en avoir 7 ou 8 sur Pont-Croix. Épicerie en gros.
Ah, quand même.
Oui. Et en marchand de vin, il y en avait une dizaine, 10 ou 11, je crois.
Parce que c'était essentiellement un port pinardier, il paraît.
C'était un port pinardier et réception de marchandises. C'est pour ça que le port, c'était le port. Pont-Croix était le port de commerce de la région et Audierne était le port de pêche de la région.
Il vient d'où le café ?
Oh, le café vient entre les deux, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Et il est essentiellement, les principales régions de production du café sont le Brésil, qui est le principal producteur au monde. Et après, il y avait tout l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Après, il y avait aussi les Sud-Est asiatiques. Et il y a un petit peu l'Afrique. L'Afrique, naturellement, l'Éthiopie, qui est le pays où on a découvert le café. Et c'est les colonisations qui ont amené le café dans toutes ces régions.
C'était transporté comment? Dans des sacs
C'était dans des sacs en chute, comme maintenant encore.
Comme maintenant, encore, ça n'a pas
changé. Ça existe, le transport, mais il y a aussi, bon, les industriels ne travaillent plus maintenant en sac en jute. Ils travaillent en silo beaucoup plus important.
Oui.
Et quand le café arrive en silo, il est après mis dans des sacs.
Dans des sacs en jute.
Sacs en jute qui vont de 70 à parfois plus, malheureusement. Mais bon, en gros, c'est 50 à 70 kilos. Si vous voulez savoir, au Brésil, on a quelques photos où on voit certains, quand ils chargent des bateaux, ils ont des sacs de 60 kilos, puisque là, ils en avaient jusqu'à 5 sur le dos. Sac, 60 kilos. Ils étaient assez costauds. Ouais. Et ils mettaient ça sur les bateaux pour les charger. Tout le café arrivait dans des ports. Il y avait quand même trois ports qui reçoivent essentiellement du café. Il y a Le Havre, il y a Bordeaux et puis il y a Marseille. Et après, il était redistribué par cabotage. Et des petits bateaux qui faisaient du cabotage n'auraient jamais traversé l'Atlantique. Il ne faut pas rêver non plus. Cabotage, c'est aller de port en port. Il faisait c'était comme ça qu'il y avait à Pontcroix du café, comme il y avait aussi à Châteaulin, puisque c'était le même système. Il y avait Morlaix aussi, et on remontait comme ça pour remonter la marchandise. Et elle remontait le Goyen par tracter avec des chevaux. Pour remonter, il y avait un chemin de haloche qui permettait de remonter jusqu'à Pontcroix.
De combien de kilomètres ?
De Audierne à Pontcroix, ce qui fait à peu près 5 kilomètres. Voilà. Le cabotage était le transport le plus sûr. Il était beaucoup plus sûr que le transport routier et plus facile, donc ce qui permettait de remonter. C'est pour ça que, initialement, tous les épiciers, en gros, et tous les marchands de vin et tout ça, étaient toujours en fonderie, comme à Pontcroix.
Vous distribuez surtout sur le Cap Sizun.
Essentiellement le Cap Sizun et le Pays Bigoudin. Mais on ne faisait pas tout le Pays Bigoudin. On allait jusqu'à Pont-l'Abbé, je crois. Et puis essentiellement, je crois que Michel Savina m'a dit qu'ils allaient jusqu'à Pont-l'Abbé. Qu'il avait des clients que j'ai retrouvés familialement après.
C'était distribué comment? Alors, charrette et puis...
Charrette avec chevaux.
Ça devait prendre du temps?
Ça prenait du temps. La main-d'œuvre n'était pas le même coût qu'actuellement.
C'était un bon marché, le café, à l'époque ? C'était quelque chose de précieux ?
C'était quelque chose de précieux, le café. C'était quelque chose de précieux, comme toutes les épices.
C'est une spécificité du Finistère d'avoir autant de brûleries. Est-ce qu'on a beaucoup de brûleries aussi sur toute la côte atlantique ?
Non, c'est une spécificité de la Bretagne. C'est pas simplement du Finistère, c'est de la Bretagne. Il y a énormément, par quoi ? Parce que c'est arrivé comme ça, et peut-être parce que nous sommes consommateurs de café, comme est aussi la région du Nord, plus que d'autres régions en France.
C'était quoi la différence entre le processus en 1902 et le processus en 2023 pour transformer les grains en
le café? En 1902, il n'y avait sûrement pas du gaz. Alors c'était du charbon de bois qui servait à torréfier le café. Autrement, c'était à peu près le même processus.
Alors, c'est-à-dire?
C'est un four qui tourne de telle manière à équilibrer la torréfaction.
C'est un four ventilé, c'est ça ?
Non, pas ventilé, qui était tourné manuellement. Maintenant, c'était tourné mécaniquement, mais c'était tourné manuellement.
D'accord.
Oui, pour que la torréfaction se fasse de manière la plus régulière sur le café, quoi.
Donc, votre grand-père, le Mick, qui tenait le café ?
Qui a créé le café.
Ah, il a créé
l'entreprise de torréfaction de café.
D'accord. Il était en quelle année, votre grand-père ?
C'était en 1902. Jean-Yves a dû vous le dire au départ, non ?
Mais j'ai pas
la création de l'e-commerce, on va dire. Puisque
c'était pas une société.
Non, c'était modeste. Hein.
Qu'est-ce que vous avez comme souvenir des cafés Savina quand vous étiez petit?
Moi, je suis né en 1949, donc c'est les premières années, bon, les années 50, on va dire. Oui, c'était une entreprise, ils étaient 7 ou 8 employés à l'époque. Comme disait Jean-Yves précédemment, là, c'était l'épicerie en gros, qu'on appelait ça, gros, demi-gros. Et ma foi, c'était un petit peu plus élargi que ce que faisait le grand-père, au niveau géographique aussi, ils allaient plus loin. Et puis bon, c'était quand même artisanal, une cousine qui avait à peu près mon âge, on mettait le café en sachet, et puis on fermait avec des agrafes, on pliait, c'était tout à fait artisanal. Maintenant, bon, tout ça, c'est des machines que Jean-Yves a créées, là, au niveau, la façon de rentabiliser un petit peu plus. Oui. C'était artisanal, puis c'était des bons moments en famille. Oui, j'ai des bons souvenirs de cette époque-là. Le premier camion que le grand-père avait acquis, c'était un White, c'était un camion américain qui servait de véhicule de police aux États-Unis.
D'accord.
C'était après la guerre, 14-18, il y avait du matériel comme le plan Marshall après la guerre 39-45. Et puis il avait racheté dans un lot, sans doute, au domaine, je pense.
D'accord. En 1930.
C'était toute votre famille qui travaillait ?
Il y avait l'oncle, le frère de mon père, là, ils étaient à 8 enfants. Mais enfin bon, c'était les derniers qui étaient à peu près de mon âge, les aînés. Déjà, Michel était né en 1931, donc c'était un grand cousin germain, comme je considérais un peu comme un grand frère d'ailleurs, hein, ouais, puisque je suis seul, malheureusement, je suis fils unique. Et c'était principe. Michel était représentant, le fils aîné. Il y avait sa deuxième sœur était partie faire des études. Après, il y avait Marie-Vonne qui était plus proche, qui s'occupait de la famille plutôt. Et puis, il y avait l'oncle, la tante était plutôt au niveau bureau, hein, mm-hmm. Ouais, dans la boutique. Et puis, il y avait ce qu'on appelait à l'époque une factrice, une dame qui était là, qui l'assistait aussi dans son travail pour les factures. Et autrement que dire, bon, oui, il y avait des employés, il y avait deux messieurs qui faisaient la tournée pour les livraisons à l'époque. Et puis, il y avait un monsieur qui faisait la torréfaction. C'était un petit peu plus important déjà, quoi, à l'époque.
Comment on se formait à la torréfaction ?
On a dû tâtonner, je pense, les grands-parents, au départ.
Oui,
il y a dû avoir des essais. C'était un peu assez difficile à gérer, parce qu'il y avait... Là
c'était au charbon de bois.
Oui, charbon de bois, ouais, donc ils ont dû tâtonner un peu, je viens de vous dire. Ouais, je pense que ça ne devait pas être très facile d'arriver à un résultat probant dès les premières tentatives.
Mais ils ont dû bien apprendre quelque part. Ils ont appris où, en partant au Brésil ou en Éthiopie ?
Non, je pense pas.
Non, sur le tas.
Sur le tas.
Je pense que c'était, je ne sais pas, l'oncle. Michel a dû...
C'est Michel qui m'a formé, lui, qui m'a formé la torréfaction. Oui.
Sur le tas, alors, du coup ?
Sur le tas, oui. Et après, on a été quand même faire une... Enfin, pas une formation. On a été se spécialiser un peu plus du côté du Havre, où il y a des importateurs de café.
On se spécialise, on peut se spécialiser dans le café ?
Ben oui, on peut se spécialiser dans le café. Le café, c'est torréfier du café, c'est pas toujours très simple.
Il y avait déjà c'était les tout premiers brûleries, les toutes premières brûleries.
Oh, c'est une des plus anciennes brûleries existantes. Mais il devait y avoir d'autres brûleries. Hein. Il n'y avait pas que Poncroix qui avait une brûlerie. Il devait en avoir dans d'autres endroits.
Il y avait des gens.
Peut-être
moins. Quimper, certainement, à l'époque.
Hein. D'accord. Ouais.
Essentiellement dans les Fondrias, Quimper, Morlaix et tout ça.
Ah, les odeurs, durant la période estivale surtout. Il y avait une odeur agréable qui était dans le quartier où c'était torréfié. Et je garde un bon souvenir de le côté olfactif de la chose. Oui.
On peut savoir si le café est bien torréfié à l'odeur ou pas ?
Non. Pardon, excuse-moi.
Non. C'était une odeur agréable. Odile peut en témoigner puisqu'elle habitait juste à côté de la torréfaction. Oui, c'était agréable. Surtout la période d'été.
Oui, moi j'ai donc vécu pendant 10 ans à côté de la torréfaction. Donc moi, ces odeurs de café, c'est vrai que ça m'évoque la vie, au fait. Le fait de boire du café, même si petite, j'en buvais pas. Mais ces odeurs-là, ça nous ramène à notre enfance. Voilà. Et quand vous parliez après aussi des marchands de vin, c'est vrai que j'en ai connu pratiquement... Coulm, j'ai moins connu, mais j'en ai connu 5.
Strèf, à l'époque.
Oui, Strèf en Sker, c'était des amis en plus à la famille. Il y a eu aussi Guézenec, il y a eu la famille Pancel.
Pourquoi vous avez repris ? Pourquoi vous avez voulu faire ce métier-là ?
C'est pas que j'ai voulu faire ce métier-là. Notre prédécesseur avait mon épouse comme salariée.
Oui.
Et il avait oui dire qu'éventuellement je pouvais être intéressé pour reprendre cette affaire. Il est venu voir, il m'a fait la demande, il m'a fait une proposition, puis on a réussi à trouver un terrain d'entente.
D'accord. Vous faisiez quoi comme boulot ?
J'étais gérant d'une société de commerce de bois.
C'est le même boulot, quoi. Vous n'avez pas vraiment changé.
C'est vraiment pas tout à fait le même boulot. Ah. C'est pas les mêmes clientèles, c'est pas les mêmes relations, c'est pas les mêmes chiffres. C'est pas du tout la même chose. Bon, il y a quand même certaines choses qui sont similaires, en ce sens que c'est de l'importation. Et avec les mêmes créneaux et les mêmes difficultés d'importation de marchandises. Oui, le café, c'est la deuxième matière première au monde commercialisée. Et c'est comment... Et donc, il y a des fluctuations qui sont très, très importantes. Le café peut attraper, en 3 mois, peut attraper 50% de hausse ou 50% de baisse.
OK. Aujourd'hui, c'est pareil.
Aujourd'hui, c'est pareil.
C'est important pour vous de rattacher les cafés Savina à la ville de Pont-Croix ?
Oui, pourquoi pas, oui.
Ce sont des entreprises voilà, qui ont été et qui sont donc toujours importantes sur Pont-Croix, surtout ben, l'entreprise de Savina. Et c'est très bien que cette entreprise périclite et voilà, je pense jusqu'à la fin des temps, hein, Jean-Yves.
Je ne sais pas, je ne resterai pas jusqu'à la fin des temps,
non,
ça c'est sûr.
Pas trop, mais bon, voilà, il y a une suite.
Ça c'est sûr.
Même si le café est un marché aux enjeux financiers colossaux et qui ne cesse de croître, l'entreprise Savina continue d'investir prudemment, à son échelle, et a su entretenir l'esprit familial instauré par la famille Savina. Aujourd'hui, l'entreprise croit fermement au commerce de proximité en distribuant leur café uniquement au commerce hôtelier et aux particuliers. Mais elle tient aussi à préserver le goût unique d'un savoir-faire centenaire.
Vous venez d'écouter Mémoire de vie, Mémoire de ville, une collection sonore produite par votre radio associative locale avec le soutien de l'association des petites cités de caractère, de la DRAC de Bretagne, des communes associées, sans oublier la participation de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au projet, à nos aînés qui ont partagé leurs souvenirs, leurs préoccupations, leurs espoirs. Merci également aux relais locaux qui ont rendu ce collectage possible. La collection Mémoire de vie, Mémoire de ville associant 6 radios et 7 communes est à retrouver sur les ondes de vos radios associatives locales et en podcast sur le site de l'Accorlab.